Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Et si on en parlait ? Vous êtes sur Radio Orient. Jusqu'au 24 mars, nous sommes dans la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous voulons mettre en valeur tout ce qui nous attache à cette langue française, à sa richesse, à ses valeurs aussi. Et pour en parler dans l'émission, nous avons aujourd'hui deux invités, deux écrivaines, deux autrices ou auteurs. Ça dépend, mais vous le savez, la langue française est riche de vocabulaire et donc on peut dire les choses avec plusieurs mots, plusieurs sens. Je vais vous les présenter rapidement, mais c'est important. Bonjour Sonia Abraham.
Bonjour Alexis.
Spécialiste de l'écologie urbaine, de la démocratie locale, vous avez travaillé pour la ville de Paris, mais aujourd'hui vous êtes là pour parler de votre premier livre,
oui.
Mer, M-E-R-E, Méditerranée, aux éditions Déméter, qui raconte la trajectoire d'une ville, la vôtre, entre la Tunisie et la France. La Tunisie, c'est votre patrie paternelle, mais là où vous êtes né.
Oui, c'est ça.
Et la France, c'est votre patrie maternelle. Nous avons envie de vous entendre sur votre binationalité, sur votre relation à la langue française. Et on vous remercie pour d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Mon autre invité est Nadia Lamlely. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste spécialisé dans le Maghreb, le Moyen-Orient. Vous avez travaillé notamment pour des magazines tels que Jeune Afrique, Telle Qu'elle, pour un journal marocain, L'Économiste. Je précise que vous êtes originaire de Casablanca.
Tout à fait.
Et en 2005, vous avez reçu le prix de la presse francophone de la chaîne américaine CNN qui récompense les meilleurs journalistes du continent africain. Et vous êtes aujourd'hui consultante dans un cabinet de communication. Mais vous êtes là aussi parce que vous avez publié un roman, Une plume dans la plaie, un roman sur l'histoire d'un journal marocain censuré. Et évidemment, on a aussi très envie de vous entendre, nous parler de ce roman, mais aussi nous parler de votre rapport à la langue française et de cette expérience d'écrire dans une langue qui n'est pas sa langue natale, parce que c'est ça aussi la francophonie et c'est le plaisir qu'on a de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nadia Lamlely, quand vous avez publié votre premier roman, vous avez dit « Rien n'égale le sentiment de tenir entre ses mains son premier roman ». C'est mon troisième bébé, avez-vous ajouté. Pour moi, c'est déjà un témoignage qui en dit long sur le rapport qu'on a au livre et à l'écriture.
Alors évidemment, c'était mon premier commentaire suite à la publication de mon roman que j'avais fait sur Facebook. J'ai dit que c'était mon troisième bébé parce que j'ai deux garçons et que pour moi c'était une nouvelle, c'était un accouchement, c'était une grossesse suivie d'une naissance. J'ai une carrière de journaliste, j'ai un parcours de 20 ans dans la presse entre le Maroc et la France. Et ça fait maintenant un an et demi, l'envie d'écrire un roman m'a prise et surtout pour raconter une période dans l'histoire de la presse indépendante marocaine. Et donc j'ai décidé de passer à l'acte. Comme dit Patrick Modiano, on décide d'écrire quand il y a quelque chose qui cloche. Sinon, on se contenterait de vivre. Donc, pour moi, c'était une expérience extraordinaire, nouvelle, étant habituée à écrire des articles, des papiers, à un style journalistique. Et le fait de profiter de cette expérience journalistique pour écrire un roman était quelque chose de complètement nouveau. C'était à la fois un enterrement, l'enterrement de quelque chose en moi, mais aussi une nouvelle naissance. On ne sort jamais indemne de la rédaction d'un roman. On enterre toujours quelque chose pour que d'autres aspects en nous naissent et fleurissent. C'est pour ça que pour moi, la rédaction romanesque est une sorte de libération. C'est un peu, le relais entre la vie et la mort. C'est un peu le cycle de la vie.
C'est un peu comme marquer une étape vers d'autres horizons. Et ça ressemble effectivement, comme vous l'avez dit, à une renaissance.
Tout à fait.
Alors, Sonia Abraham, vous aussi, vous êtes entrée dans cette expérience de l'écriture d'un premier livre.
Oui.
Mer Méditerranée. Et bah, on a envie aussi que vous nous donniez un petit peu un témoignage.
Alors, je vais rejoindre Nadia déjà sur la thématique de la naissance, déjà avec mon titre, Mer Méditerranée, avec ce petit jeu de mots sur mer, M-E-R et mer, M-E-R-E. J'y reviendrai un peu plus avant, tout à l'heure, mais ce qui est drôle là quand je compare l'intervention de Nadia, ses premiers mots et les premiers mots moi que j'ai jetés sur l'écran Facebook, puisque maintenant eh bien les réseaux sociaux sont très présents dans nos vies, j'avais donc présenté la sortie de mon livre comme une naissance. Je l'ai présenté moi comme mon premier bébé. Pour l'instant, mon unique bébé, mais issu non pas d'une grossesse de 9 mois, mais presque d'une gestation de 9 ans. Non pas 9 ans en continu, sinon il aurait fait...
ça fait 9 ans que vous...
Ça fait 9 ans que, j'allais dire, ce livre est sur le métier, avec... Par petites touches, je l'ai écrit par petites touches, de manière assez irrégulière, au gré des, parfois des moments de douleur, parce qu'un livre, on y reviendra, c'est souvent thérapeutique. C'est un peu un cliché de dire ça, mais souvent les clichés sont vrais aussi. Et en ce qui me concerne, il y a une grande dimension de traduction, d'une introspection, d'une réflexion justement sur mon parcours de vie et ma place dans la société, ou plutôt dans les sociétés, puisque en ce qui me concerne, il y a la société tunisienne, la société française, cette société où je suis née en Tunisie, parfois en vivant plus comme une Française que comme une Tunisienne, donc beaucoup de paradoxes dès la plus tendre enfance, et puis ensuite l'arrivée en France à 22 ans, dans ce que j'ai appelé dans mon livre ma patrie maternelle d'adoption, ce qui peut sembler un peu pareil, insolite, mais qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire ces paradoxes entre cette langue maternelle aimée, adorée même, hein, que j'ai pratiquée petite à la maison avec ma mère, avec mon père, mes frères et sœurs, au lycée français. Puisque à l'époque, dans les années 80-90, la Tunisie, indépendante depuis 56, teste aussi son rapport avec la langue française et son désir aussi d'émancipation de cette langue qui était celle du colon, mais en même temps un attachement séculaire aussi à cette langue qui a fait une partie de son histoire, qui fait partie de son histoire. Et donc, il y a eu énormément de réformes dans le système scolaire universitaire tunisien, pas toujours hyper bien gérées, pour tout dire, et qui ont parfois compliqué un peu la vie de ces générations des années 80, qui naviguaient un peu d'une langue à l'autre. Et moi, j'avais résolument... choisi d'ancrer mon parcours dans la connaissance et la maîtrise la plus parfaite, enfin que je voulais la plus parfaite possible de la langue française, en me disant que justement pour exprimer ce qu'on ressent, pour dire ses attentes, ses espoirs, pour parler de sa vie et il faut des mots, il faut la maîtrise de la langue. Donc voilà ce qui m'a amené à être une grande lectrice dès mon plus jeune âge, alors plutôt avec une culture livresque classique française, mais pas que, mais majoritairement. Et puis arrivé en France pour poursuivre mes études universitaires de troisième cycle. Une envie parfois de me reconnecter aussi à une part de culture tunisienne qui m'appelait aussi.
C'est intéressant parce que
On est toujours dans des allers-retours en fait. Hein. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai intitulé ce livre Mer Méditerranée parce que on est un peu au milieu. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'en arabe la Méditerranée c'est El Bahr El Abyad El Moutawas, c'est la mer du milieu. Et on est au milieu, c'est elle qui nous enfante.
On pourrait dire que c'est quand même aussi le trait d'union.
Oui, c'est ça.
Entre deux continents.
On navigue d'une rive à l'autre et d'une certaine manière, elle nous a enfantés.
Alors, voilà. Nadia Lamlili, Sonia Braham décrit bien ce conflit un peu d'être dans une culture attirée vers son autre culture. Et puis quand on est passé de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, on repense à sa culture d'origine. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à... puisque vous vivez aussi en France, vous écrivez en français, vous avez travaillé dans un univers francophone, tout en étant évidemment arabophone et natif du Maroc. Donc comment est-ce que vous gérez cette dualité, cette qui n'est pas une binationalité, mais qui est quand même une forme de dualité?
Alors en fait, moi je dirais plutôt un trait d'union, je retiens ce mot, parce qu'on ne le sent pas comme une dualité. Alors contrairement à Sonia, moi j'ai fait tout mon cursus scolaire dans une école marocaine bilingue à Casablanca. Et en fait, l'amour de la langue française m'a été transmis par mon père, qui est enseignant de langue française. Et donc, depuis toute petite, j'ai vécu dans un environnement, moitié arabophone, moitié francophone. On arrivait à parler les deux langues. Mais à la base, je me vois encore, je suis toute émue. Je vois mon père assis dans son fauteuil rouge et noir, feuilletant ses romans. Et moi, à ses côtés, tenant l'encyclopédie Tout l'univers, qui est la fameuse collection rouge que des générations entières des pays du Maghreb connaissent. Et c'est mon père qui m'a transmis, en fait, qui m'a initiée à la littérature française depuis toute petite. Alors, ça a commencé dans le primaire par la collection du Français universel, hein, Colomba, de Prosper Mérimée, Sans famille, d'Hector Malot. Et puis, arrivé au collège, dernière année du collège, je me rappelle, mon père me dit « Maintenant, il est temps que tu commences à lire les romans, les vrais romans. » Et il me ramène le père Goriot de Balzac.
Et donc, aussi au programme scolaire. Hein,
qui était, je l'avais étudié à l'école.
Justement, parce que moi, j'avais fait j'avais fait l'école marocaine, mais à côté, j'avais une sorte d'accompagnement comme si j'étais dans un lycée français. Et donc, j'ai lu le père Goriot. Et excusez-moi l'expression, j'ai trouvé un peu les descriptions un peu lentes, parfois ennuyeuses. J'ai rapporté cela à mon père, lui disant « Écoutez papa, le romancier écrit très bien, mais il s'attarde beaucoup sur la description de l'ameublement. » C'était un peu ma conception de gamine. Hein. Et là, il me répond, il me regarde longuement, il me répond « Lis ma fille, tu comprendras plus tard. » Et c'est comme ça que j'ai lu, après il m'a initiée à Hugo, à Victor Hugo, Flaubert, George Sand, et j'ai compris plus tard qu'en fait il avait une démarche progressive dans mon initiation au grand courant de la littérature française. Et je lui ai dit, mais papa, pourquoi on ne commence pas par Voltaire, par Rousseau? Il m'a dit, ma fille, tu es encore jeune, ce sont des livres qui ont une dimension philosophique, tu les liras plus tard. Et après, la découverte, c'était avec Zola. C'était une découverte extraordinaire, le réalisme expérimental, à tel point que je faisais un peu mon enquêtrice, hein, qu'on faisait Zola avant d'écrire ses romans. Et j'avais mon crayon, je me rappelle très bien, j'avais mon crayon, mon bloc-notes, et je sortais pour aller enquêter dans les bas-fonds de mon quartier. Et à la maison, on m'appelait Zolette. La petite Zolette est sortie. Elle est sortie avec son crayon et
elle est sortie se confronter à la réalité.
Se confronter à la réalité.
Regarder entre ce qui était raconté dans
les. Tout à fait. Et mine de rien, c'est un peu ma lecture de Zola qui m'a initiée au journalisme, en fait. C'était mes premiers débuts de journaliste. Par la suite, évidemment, au cursus scolaire aidant, j'ai lu enfin tous les grands écrivains du XXe, hein, Colette, Gide, Céline, Simone de Beauvoir était une sacrée claque. Je me rappelle que je l'ai lu au lycée, en terminale. J'ai découvert des aspects insoupçonnés de ma relation avec ma mère, avec qui les relations ont été un peu compliquées. Après, j'ai fait un parcours littéraire en langue et littérature française et c'était une deuxième claque en découvrant la littérature maghrébine d'expression française. Mouloud Feraoun, Mohamed Dib, Assia Djebbar, Rachid Boudjedra, Driss Chraïbi. Pour moi, c'était un peu la découverte de la relation, de cette douloureuse relation entre la réalité maghrébine et cette France qu'on chérit tant. La relation patriarcale, le père oppresseur, cette mère aimante, mais qui est dans la souffrance. Et là, du coup, je relis Simone de Beauvoir, c'était ma deuxième lecture de Simone, et je redécouvre encore des aspects de ma féminité, de ma relation aux femmes, et je décide, après une licence en langue et littérature française, de faire du journalisme pour porter la voix des femmes et pour
témoigner,
faire ma zolette, c'est-à-dire aller enquêter, faire des reportages. Et c'était ça, en fait, ma relation avec la langue française. Bon, après, j'ai fait tout un parcours. Mais la deuxième initiation, après mon père, c'était ma rencontre avec une grande sociologue marocaine qui s'appelle Fatema Mernissi, qui est décédée en 2015. C'est une grande romancière. Et en fait, c'était dans le cadre d'un atelier d'écriture et elle m'a ouvert les yeux sur un aspect dont je ne soupçonnais pas l'existence. Elle m'a dit, Nadia, dans ta famille, est-ce qu'il y a des femmes qui tissent, qui font de la broderie ou qui tricotent? Je lui ai dit, Fatema, oui, ma mère, elle faisait de la broderie. Et là, elle me dit, mais tu sais, Nadia, les femmes qui écrivent, que ce soit dans le journalisme ou dans les métiers liés à l'écriture, romancière, chercheuse, ce sont des femmes qui ont connu dans leur enfance ou qui ont vécu dans des milieux où il y avait des métiers de tissage, des métiers de tricotage, essentiellement faits par des femmes. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait l'écriture, c'est tisser une histoire. C'est imaginer des motifs et c'est les broder au gré de notre imagination. Et j'ai trouvé sa façon de relier les histoires entre la réalité artisanale maghrébine et le fait d'écrire absolument extraordinaire. Et donc en fait, le journalisme a été pour moi un vecteur d'émancipation et la rédaction d'un roman, c'était un vecteur de libération. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de libération, parce que on ne sort jamais indemne de la rédaction d'un roman. C'était éprouvant. Le premier jet, je l'ai fait il y a 5 ans, mais il y avait beaucoup de colère là-dedans, à tel point que c'était impubliable. J'ai décidé de mettre de côté.
Vous avez commencé à écrire.
J'ai commencé à écrire il y a 5 ans.
Mais vous avez dit ça, c'est impubliable. Il faut que je reprenne les choses
tout
plus calmement, avec plus de...
Avec plus de recul, d'autant plus que j'ai vécu certaines scènes de l'histoire que je raconte dans mon roman. Et j'ai décidé de me consacrer à mon développement personnel. Voilà, à régler certaines problématiques ancestrales à travers des séances énergétiques, à faire tout un cheminement spirituel. Et j'ai repris la plume il y a 1 an et demi. Et là, je ne me suis pas arrêtée. C'était tous les jours jusqu'à ce que j'ai bouclé mon roman.
Alors du coup, ça vous fait un point commun à toutes les deux, parce que on voit bien à quel point l'entrée dans l'expérience de l'écriture représente une mise à nu de soi-même qui parfois oblige à s'arrêter puis à reprendre. Et bon, donc là, ça me permet de faire ma transition puisqu'on va faire une courte pause. Et évidemment, on va reprendre le fil de cette émission passionnante.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la langue française dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Pour en discuter avec nous deux invités, Nadia Lamlili, qui est journaliste, consultante, auteure d'un ouvrage, premier roman, « Une plume dans la plaie ». On va en reparler. Et Sonia Braham, elle aussi consultante, écologie, démocratie locale, mais qui s'est lancée à son tour dans l'aventure de l'écriture. Un ouvrage Mer, M-E-R-E, Méditerranée, je le dis à chaque fois parce qu'il y a quelque chose là dans le titre qui évoque beaucoup de cette aventure littéraire finalement, parce que c'est vous qui avez choisi le titre,
oui.
Et c'est vous qui avez écrit cet ouvrage qui est publié aux éditions Déméter. Alors moi j'aimerais qu'on continue la discussion. Nadia Lamlini vient de nous livrer un témoignage extrêmement fort de la douleur d'écrire, de la manière de... Vous avez parlé vous-même, c'est vos mots, hein, c'est comme un enfantement finalement, on fait sortir quelque chose de soi. Ça faisait écho, Sonia Braham, à ce que vous disiez aussi. Mais je voudrais aussi vous entendre, quelles sont vos références en matière de littérature française ? Parce que Nadia Lamlili a cité Zolette, donc là il y a un transfert. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ça ?
Oui, bien sûr. J'ai en commun avec Nadia aussi la découverte assez enthousiasmante de la littérature et de la peinture sociale de Zola. En commun aussi, je vais reprendre ce que disait votre père, hein, du moment adéquat pour lire un ouvrage et s'en imprégner. Je dirais peut-être qu'il faut en effet les lire et les relire, peut-être plus tard. C'est ce qui m'est arrivé avec Zola, que j'avais lu un peu comme tout le monde à l'adolescence et que j'ai redécouvert beaucoup plus récemment avec toute une dimension en effet d'ethnologue et de journaliste qui peut-être m'avait davantage échappé à l'époque. Mais pour revenir à mes toutes premières amours littéraires, alors enfant, ça a été les collections, la bibliothèque rose, voilà, ça m'échappe.
Verte et rose
d'abord, verte rose ensuite, d'abord. Le club des cinq, donc des références très très marquées, hein, par la culture française, avec les bouquins qui étaient à la maison, hérités des grands frères et sœurs, des cousins, des cousines, de maman, la collection Rouge et Or, un peu plus ancienne. J'insiste quand même sur la place de ma mère là dans mon amour de la langue française, pas qui est quand même marquante, extrêmement marquante en ce qui me concerne, peut-être plus généralement, enfin pour le cas de Nadia c'est plutôt son père si j'ai bien compris, donc ça voilà, ça illustre un peu la diversité des expériences.
Et est-ce que vous auriez dans la littérature arabe des auteurs
De prédilection,
enfin des œuvres qui vous ont aussi marqué, inspiré.
Oui, mais alors là encore beaucoup plus tardivement, parce que adolescente, ça a été mes premiers chocs littéraires, ça a été Boris Vian, L'écume des jours, Les raisins de la colère, Steinbeck. C'était mon univers littéraire que j'ai. Alors que je dirais mon univers artistique, parce que j'aime bien aussi. Tisser des liens entre la littérature, la peinture, la musique. J'avais construit un espèce d'univers dans lequel je me réfugiais parce que le quotidien n'était pas toujours facile à la maison. Donc je me réfugiais dans les bouquins, mais aussi dans la musique. Alors j'écoutais, comme beaucoup d'ados de mon âge, Pink Floyd, la pop aussi, mais plutôt la musique un peu psychédélique qui était... de nature à entrer en résonance avec les tourments de l'adolescence. Je m'étais aussi prise de passion pour la peinture de Van Gogh et des impressionnistes. Je vous dis ça, ça semble peut-être un peu insolite, mais pour moi, la dimension artistique est plurielle et
ça nous rappelle que la culture est un tout.
Voilà, et pas discontinue. Alors, pour dire vrai, l'influence des auteurs arabophones a été pas très prégnante pendant mon adolescence. Je les ai, alors pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand paradoxalement je suis arrivée en France que je me suis mise, de même que la redécouverte de l'art culinaire. Je me suis intéressée davantage au Kateb Yassine, Tahar Ben Jelloun. Abou Qassem Chebbi, le grand poète tunisien, Ibn Khaldoun, qui ont nourri mes réflexions, peut-être, et mon inspiration plus tardivement. Alors, l'autre grosse claque, littéraire, mais pas que, là, on est plus dans l'anthropologie, l'ethnologie et je rejoins aussi là encore Nadia, je pense que de par nos parcours, on est attiré par la dimension sociologique et ethnologique parce qu'on veut comprendre, les sociétés, on a envie de voir comment fonctionnent ces sociétés pour définir des règles et donner un peu leur place à chacun, ou pas assez justement. Et donc, je reviens à ce que je disais, là, j'ai beaucoup digressé. Ça a été Claude Lévi-Strauss. À 23 ans, j'ai vraiment découvert ce qu'était, alors, de par des études d'ethnobiologie que j'ai faites en arrivant en France suite à un cursus de premier cycle et deuxième cycle universitaire fait à la fac de Tunis, qui est assez insolite pour tous les rejetons, toutes les mixtures, comme on disait, qui étaient passées par le lycée français. Mais bon, il se trouve que moi, j'ai fait 5 ans à la faculté tunisienne en biologie, écologie. Donc là, j'avais choisi des sciences exactes, et je dis ça pas de manière anodine, c'est parce que ne maîtrisant pas très bien l'arabe, et étant contrainte, obligée pour plein de raisons d'aller à la fac tunisienne, j'étais obligée de choisir des disciplines qui étaient enseignées en français, et donc c'était les sciences exactes.
D'accord.
Donc voilà. Et arrivée en France, j'ai repris des études d'ethnologie, et là, un coup de cœur, mais plus que ça, pour l'ethnologie et Claude Lévi-Strauss. Avec ce rapport un peu post-cartésien à la signification de la culture et de la nature, et je pense derrière ça, pour moi, la volonté de trouver des invariants un peu partout, c'est-à-dire que l'écologie, l'inscription de la culture et ses rapports à la nature sont des dimensions qui sont communes et universelles, et je pense que je me suis rattachée beaucoup à ces questions qui du coup gommaient un petit peu les divisions entre les sociétés.
Qui sont transversales.
Qui sont très transversales. Et ça me rassurait, justement, je pense, dans la quête de ma propre identité, de son inscription dans un monde complexe.
et même parfois, malgré les progrès techniques, technologiques, qui nous semblent de plus en plus complexes dans sa lecture. Nadia Lamlidi, vous dites, vous avez voulu faire un livre aussi qui parle de liberté d'expression, de liberté tout court, mais de liberté d'expression. Et donc, quand on parle liberté d'expression, on parle évidemment des langues et de l'expression d'écrire, notamment, puisque vous, dans votre premier roman, je rappelle, Une plume dans la plaie, c'est un journal qui est censuré. Donc là, il y a aussi, vous racontez aussi quelque chose sur le rapport à l'écriture, donc à la langue.
Tout à fait. Alors, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un journal marocain confronté à un procès en justice. Et ça se passe à Casablanca entre 2009 et 2011, juste à la veille du printemps arabe. D'ailleurs, le roman se termine sur une scène, sur une manifestation du mouvement du fin février à Casablanca. J'ai voulu, à travers ce roman, sortir en fait de l'oubli cette période qui était quand même assez, assez importante dans l'histoire de la presse indépendante. Au Maroc, entre 2009 et 2011, beaucoup de journaux ont été confrontés à des procès éditoriaux, à des procès en justice, justement, qui avaient atteint la liberté d'expression, la liberté de parole. Certains journaux ont disparu, d'autres ont été obligés de changer de ligne éditoriale.
De s'adapter,
pour dire les choses d'une façon
pudique.
Plus politiquement correcte. Et donc, à travers ce roman, j'essaie de... je n'ai pas suivi l'histoire d'un journal de A à Z, mais c'est un peu plusieurs histoires dans une seule trame. Et c'est une trame qui se passe dans les vieux quartiers de Casablanca, où les monuments historiques sont eux aussi confrontés au danger de la disparition. Donc, dans ce roman, j'ai dressé un parallélisme entre cette presse indépendante qui a porté la parole des Marocains dans une certaine période entre 2000 et 2007, là où il y avait une certaine liberté, enfin une liberté toute relative, mais une liberté quand même, et ce patrimoine historique qui est là, qui date c'est un patrimoine centenaire, mais en fait... qui menace ruine, qui disparaît dans l'indifférence presque générale. Et la première photo, la couverture du roman, c'est l'hôtel Lincoln. C'est un grand hôtel qui date de 1914 à Casablanca, construit par un grand architecte français. Et bien sûr, regardez comment il est devenu, il est en ruine. Il est au centre d'un procès. Alors maintenant, il me semble que il va être restauré, mais il est au centre d'un procès en fait pour expropriation. Après, il y a eu pas mal de retard pour le rénover et pour le remettre en fait à sa forme initiale. J'ai voulu, à travers ce parallélisme en fait, témoigner l'idée que on ne peut rien construire dans nos sociétés, dans les sociétés arabo-musulmanes, si on ne se réconcilie pas avec notre passé, si on ne digère pas notre passé, si on ne respecte pas notre patrimoine et notre héritage. On ne pourra pas construire d'avenir. Et c'était le message que j'ai voulu véhiculer dans ce roman. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les personnages et l'histoire de ce livre dans le vieux quartier de Casablanca, boulevard Mohamed V, et puis d'autres boulevards à côté.
Et vous pouvez juste, pour nos auditeurs, expliquer le titre, parce que oui. ça parle aux journalistes, à la journaliste que vous êtes et aux gens qui sont dans ce métier, mais ça ne parle pas forcément à tout
Alors,
le monde.
Alors, Une plume dans la plaie, c'est tiré d'une citation célèbre d'Albert Londres, qui est le père du journalisme d'investigation.
À l'origine de ce du journalisme moderne. Quoi,
du journalisme moderne. Et,
père fondateur.
Le père fondateur. D'ailleurs, il y a un prix prestigieux.
Absolument. Albert Londres, le prix Albert Londres.
Et donc, en fait, c'est une citation, c'est une expression qu'il a écrite dans un livre qui s'appelle La traite des nègres, je pense. Oui, c'est un vieux reportage qu'il avait effectué dans les pays d'Afrique subsaharienne où il avait, et je pense qu'il était parmi les premiers journalistes français à aller enquêter dans les anciennes colonies françaises d'Afrique occidentale. Il avait rapporté des réalités qui n'étaient pas politiquement correctes à l'époque.
Absolument.
Et donc, en fait, il a été attaqué.
Il avait décrit, en fait, ce qu'était la colonisation et ce que subissaient les populations.
Tout à fait. Et il avait rapporté le statut de nègre qui était complètement admis à l'époque, les injustices, l'esclavage. Et donc, après, quand il a écrit son reportage, il a été attaqué par l'intelligentsia française. Et il avait utilisé cette expression pour dire que le rôle d'un journaliste n'est pas de plaire
À ceux qui sont installés.
Mais de porter la plume dans la plaie, c'est-à-dire d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas. D'où d'ailleurs l'expression que j'ai utilisée, qui, à mon avis, s'y est parfaitement à l'histoire de ce journal qui a été censuré au Maroc.
Merci, Nadia Namlili. Je reviens vers vous, Sonia, pour vous nous expliquiez aussi. Alors, on a un petit peu compris dans la manière dont vous avez rappelé votre trajectoire, votre histoire. Et ce livre, quelque part, il est aussi le produit de cette histoire. Mais comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de parler de votre binationalité dans le titre ? En fait, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, mais peut-être que vous pouvez nous l'expliciter, nous l'expliquer.
Oui, alors je vais encore rebondir sur ce qu'a dit Nadia sur la réconciliation avec son passé, qui est à mon sens valable à l'échelle d'un pays et évidemment valable à l'échelle d'une personne, et les deux allant de pair. Et je pense que j'ai voulu justement à travers ce livre me réconcilier avec mon histoire de binationale et peut-être établir à mes propres yeux des injustices justement et des déséquilibres dans la manière dont j'avais appréhendé la culture de mon père, surinvesti celle de ma mère. Et en même temps, pourquoi culpabiliser ? C'était ainsi et c'était bien comme ça. Donc, je parle à mon échelle individuelle, mais en filigrane.
Mais beaucoup de gens peuvent se.
Voilà, en filigrane, je me dis que je parle aussi de l'échelle des sociétés plus collectives. Je pense qu'on est tous justement parfois très trop durs, soit envers sa propre histoire, soit envers le regard qu'on peut. On peut porter sur l'histoire de nos pays respectifs
et de nos parents.
Donc j'ai voulu à travers des souvenirs assez simples, des anecdotes de vie, me réapproprier justement des aspects de ces deux cultures et pacifier sans doute certaines choses. À l'égard de mes parents et de leur culture respective. À un moment, je dis dans ce livre que j'ai réalisé un jour que je leur étais étrangère et c'était très particulier. C'est-à-dire que mon père est tunisien, ma mère est française et moi, je suis franco-tunisienne. Et ça a été très étrange de me dire... Papa, maman, je vous suis étrangère, en fait. J'ai pas la même nationalité que vous. Enfin, je simplifie. Vous êtes étrangers l'un pour l'autre, mais je suis aussi une étrangère envers chacun d'entre vous. Et voilà. Donc, il y a toute cette complexité que j'ai voulu retravailler, revisiter à travers des souvenirs, parfois des souvenirs douloureux. Mais l'idée, c'était... Oui, se réconcilier avec son passé pour avancer. Alors j'ai envie de citer une phrase de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Et j'aurais envie de la transformer un peu, si j'osais, en disant On est d'une langue aussi, comme on est d'un pays, avec là encore un jeu de mots, on est EST ou on est NAIT. Voilà, la question est posée, vous avez 4 heures.
Alors, malheureusement, nous n'avons plus 4 heures devant nous pour continuer à parler de la langue française, de la manière dont on se l'approprie, y compris quand c'est pas sa langue maternelle ou paternelle. C'était « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient avec nos deux invités, Nadia Lamlili, merci beaucoup, auteur de Une plume dans la plaie, un premier roman, et Sonia Braham, que je remercie également, autrice, auteur, écrivaine, d'un premier livre, Mer Méditerranée. À la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.